explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien, moi, j'y vais. Je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Vous connaissez les vieux loups de mer, les marins d'eau douce, mais connaissez-vous les écrivains de marine? Ils sont au nombre de 20, regroupés dans une association en partenariat avec la Marine nationale. Ces écrivains s'engagent, je cite, « à favoriser la propagation et la préservation de la culture et de l'héritage de la mer ». Parmi eux, on trouve Éric Orsenna, Sylvain Tesson, Isabelle Autissier ou encore Yann Kefelec. Et depuis janvier 2018, Dominique Lebrun a rejoint l'équipage. Auteur prolifique, il a écrit plus de 200 ouvrages en près de 35 ans. Il est notamment l'auteur d'un livre réjouissant aux éditions du Trésor intitulé « C'est pas la mer à boire ». Il y raconte pêle-mêle sa passion pour l'océan et les bateaux, son goût pour les chants de marins, les remèdes contre le mal de mer ou encore l'univers des phares. Nous avions eu le plaisir de recevoir Dominique Lebrun à l'été 2018. Cet après-midi, nous vous proposons une nouvelle diffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, le passionné de nature François Lasserre nous emmènera sur la piste d'espèces animales ou végétales qui ont fait un long voyage avant de s'installer chez nous, comme le coquelicot, le lapin de Garenne, le faisan ou encore, plus récemment, le frelon asiatique. Voilà pour le programme de cette émission, préparée par Solène Vary et Claire Tesser et réalisée par Anne-Sophie Ladonne et Stéphanie Texier, avec à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour Maté. Bonjour Mato.
Bon, le bas de combat, monsieur. Dans 10 minutes, le gars de la capitainerie ouvre les vannes du port, là. Hein?
Il faut faire vite, monsieur.
Mais vous inquiétez pas, on va arranger ça. On va vous dépoter le miron.
Hein?
Allez, les gars, aux étouilles maintenant.
Hein? C'est quoi les étouilles?
Mais j'en sais rien, moi, mon pauvre ami.
Mettez-vous à la réception avec les cales en bois! À la truidesse!
Hein? Rien à ce qu'il me raconte, quoi. Il marmonne des trucs avec sa cigarette. Ah, mais là, je.
Accompagnez le bateau!
Mais oui, accompagnez, bah oui, mais.
Accompagnez! Ah, la truidesse, là!
Oui, oui, oh, oui, je vais.
Les cales en bois, la truidesse!
Voilà! Putain, il entre avec les cluses, là!
Mais l'emportier, là, aidez-moi! Ça y est, je suis emporté vers le
lard!
Attrapez le bout, ça va mort!
Attrapez
le bout, ça va mort!
Le bout, piquez le bout! Va mort, va pas mettre!
Extrait du film Liberté Oléron de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès qui décide de mettre donc toute sa famille à la voile. Et on l'entend, ça ne se passe pas de façon très simple. Dominique Lebrun, on ne s'improvise pas marin.
Non, c'est une des choses qui est strictement impossible. On ne peut pas s'improviser marin. Il y a une forme d'apprentissage qui est tout à fait nécessaire. D'ailleurs, c'est un peu en décalage avec la société où on vit. On voudrait tout arriver du premier coup.
Ouais.
Alors qu'autrefois, quand on apprenait la navigation, c'était quelque chose de très, très, très progressif. Avant d'avoir le droit d'aller sur le bateau, il fallait encore être capable d'y arriver avec ce qu'on appelait l'annexe, le petit canot qui naît depuis le quai jusqu'au bateau.
Ouais.
Donc c'était déjà une première navigation avant la navigation. Ouais. Donc il n'y avait pas le droit à l'erreur. Ouais.
Et puis il fallait aussi acquérir le vocabulaire. Hein, si on se trouve à bord du bateau, en situation périlleuse et qu'on ne sait pas où est bâbord, où est tribord, ce qu'est un bout et tout autre vocabulaire, on ne s'en sort pas.
Ben, c'est là aussi où, dans l'urgence, on ne peut pas avoir un seul temps d'hésitation. Donc tout objet doit avoir un nom extrêmement précis et il n'existe pratiquement pas dans le vocabulaire nautique de synonyme.
Ah oui.
C'est extraordinaire. Hein.
C'est ça. C'est-à-dire que
il y en a pratiquement pas.
Si l'autre ne comprend pas de quoi on parle, on peut pas donner le nom dans la langue courante, quoi.
Bah, c'est pas facile d'avoir le glossaire dans le fond de la poche et de le consulter. Ouais. Si on ne connaît pas le vocabulaire, on est perdu, c'est évident. Alors quelquefois, il y a des mots extraordinaires, effectivement,
par
et
exemple,
ça peut poser problème.
Vous en avez en tête?
Ah ben, bah, j'ai souvenir d'une histoire complètement folle qui s'appelle l'argue la bastac. La bastac, c'est un câble qui tient le mât sous tension pour que l'été de phoque soit ready.
Ouais.
Tout le monde a bien compris.
Déjà on là, est bien on d'accord. Est un peu perdu. Ouais, ouais, ouais.
C'était juste la démonstration que je voulais faire. Ouais. Si on ne connaît pas le vocabulaire, on n'a aucune chance.
Ouais. Comment vous avez appris, vous, à naviguer, Dominique Lebrun ?
Bien, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que je suis né au bord de la mer en Bretagne et on a, à l'époque, les écoles de voile existaient à peine et on avait une tradition locale qui était qu'avant d'aller sur un bateau, on était le mousse de quelqu'un. Donc, on apprenait petit à petit, d'abord aller dans l'annexe, comme je le disais, à godiller ou à ramer. Et ensuite, on apprenait petit à petit à gréer le bateau. On apprenait donc le vocabulaire. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris. Et puis ensuite, j'ai fait un stage d'école de voile avec des vrais moniteurs. Et ensuite, j'étais moniteur moi-même, etc., etc.
Et puis, vous avez appris, sans être particulièrement vieux, mais vous avez appris à une époque où tous les outils de navigation connectés actuels n'existaient pas. Et on sent dans votre livre, alors, il y a la volonté de ne pas passer pour le vieux grincheux qui dit « c'était mieux avant ». Mais on sent aussi une petite nostalgie pour ces époques où, avec un sextant, avec quelques outils, à la place du soleil, on pouvait déterminer sa position sur une carte.
Vous venez d'évoquer là toute la difficulté que j'ai eue à écrire ce livre, qui est un livre de commande. C'est un éditeur qui me l'a demandé et j'ai failli dire non pour justement éviter ce problème de nostalgie. En revanche, je suis convaincu que nous avons tous un devoir de nostalgie et je serai après militer pour l'existence tous les ans d'une journée de la nostalgie. Alors maintenant, cette notion de nostalgie par rapport aux techniques de navigation. Ce qu'il y a, c'est que nous avons eu un bonheur fou, par exemple, à nous égarer en mer. Il y avait de la brume, du courant, du vent qui était tombé, on était emporté, on ne savait plus où on était. Au moins avait-on une histoire fabuleuse à raconter en rentrant. Avec un GPS, il n'y a même plus à en parler puisqu'on sait en permanence où on est. Alors je ne vais pas dire que c'est ennuyeux, parce que c'est quand même très sécurisant, mais le nombre d'aventures qu'on a connues et qu'on ne connaîtra plus, c'est bien dommage.
Après, rien ne vous empêche de le couper, le GPS.
Mais non ! Si c'était si simple que ça. Pareil pour la radio VHF. Supposez que vous le coupiez et que vous touchiez un caillou, fassiez naufrage et vous noyez quelqu'un.
Oui.
Vous avez bonne mine. Donc, quand un progrès comme celui-là arrive, on ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. Oui. Donc, on fait avec. Mais je vous assure, l'été dernier, j'ai racheté un sextant que j'ai trouvé chez un brocanteur. Et ben, le réutiliser pour poser le soleil sur l'horizon, c'est quand même quelque chose qui vous monte au cœur et ça excite.
Vous savez encore l'utiliser, ce sextant qui vous excite?
Alors, le sextant, c'est fabuleux parce qu'il y a tout un geste en mer pour s'accorder. Mais après, c'est des calculs. Et ça, j'avais complètement oublié. J'ai retrouvé les livres.
Ça veut dire que si demain, admettons, une grosse catastrophe ou une panne généralisée des satellites GPS survenait, vous seriez encore capable de naviguer à l'ancienne?
Oui, et nous sommes un certain nombre. C'est d'autant plus important que les satellites dépendent de l'armée américaine et que pour une raison de conflit, ils peuvent les dérégler volontairement. Ça a été le cas pendant longtemps, pendant le début de la guerre d'Irak par exemple, et là on a bonne mine. Alors ensuite, ce qu'il y a surtout à mon niveau, je dis, c'est le plaisir de naviguer à l'ancienne qui disparaît, tant pis pour ceux qui n'ont pas connu, pour ceux qui l'ont connu et qui le connaissent, tant mieux. Pour moi, je le situe uniquement au niveau d'un plaisir qui disparaît.
Quand est-ce que vous avez ressenti l'appel du large? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la mer, Dominique Lebrun?
Je sais pas.
La lecture, les bateaux que vous voyez partir sur le port de Brest.
Sans doute la lecture. Je suis né à Saint-Paul-de-Léon, qui est une ville agricole à 500 mètres de la mer. Et en Bretagne, souvent, à très près de la mer, on est paysan et pas du tout marin. Et je pense que ce sont des lectures dans mon collège de curé le jeudi matin, quand on avait le droit de lire le livre de la bibliothèque. J'ai dû lire Curune, Autour du monde, Le Toumelin, ce genre de choses, et ça a dû m'apporter ce mouvement. Mais dans le même temps, il y avait aussi la haute montagne. C'est paradoxal pour un breton, mais c'était comme ça.
Je vous propose un extrait de Moby Dick de Herman Melville, lu par Guillaume Gallienne.
Je m'appelle Ismaël. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Avec un grand geste, le philosophe Caton se jette sur son épée. Moi, tout bonnement, je prends le bateau. Rien de surprenant à ça. Chaque homme, à quelques périodes de sa vie, a eu la même soif d'océan que moi.
Extrait de Moby Dick de Herman Melville dans lequel le narrateur Ismaël explique donc son besoin vital de prendre le large plutôt que de se suicider. Dominique Lebrun, est-ce qu'il y a chez vous aussi ce goût pour la mer, cette envie de fuir, cette espèce d'absolu de besoin vital de mer?
C'est pas de fuir. C'est sûrement pas de fuir. Et en ce qui me concerne tout au moins, c'est pas forcément la mer. C'est aussi le désert et la haute montagne.
C'est les grands espaces, en fait.
Les grands espaces où on est seul avec ce que l'on sait faire par rapport à une nature qui sera toujours la plus forte et avec laquelle on compose. Et lorsqu'on a compris ce mode de vie, on a une force au quotidien qui est extraordinaire. Alors la mer, oui, de toute façon, ça dépasse tout le reste pour moi, sans doute parce que c'est le domaine dans lequel je suis le plus compétent ou le moins incompétent, comme on veut, parce que je suis né au bord et que effectivement je ne peux pas me passer de la mer, ou plutôt, je dirais, je ne peux pas me passer de la marée. Parce que j'ai vécu beaucoup en Méditerranée et j'ai constaté que l'absence de marée me manquait considérablement.
Il vous faut la marée pour rythmer vos journées ?
Je me demande quelquefois si dans ma vie parisienne, puisque je vis à Paris, il n'y a pas des comment dire, un peu comme les huîtres qu'on ramène de Bretagne et qui suivent à l'heure de la pleine mer sur les étals parisiens, il n'est pas exclu que quelque part dans mon horloge biologique, il y ait quelque chose comme ça, oui.
Vous avez le cœur d'une huître, je ne sais pas comment il faut le prendre.
Je voulais pas le dire comme ça.
Certains marins, et pas des moindres, ont éprouvé cette envie de prendre le large et puis de ne plus rentrer au port, comme le célèbre Bernard Moitessier. On s'en souvient, c'est extraordinaire.
Ça, c'est l'histoire la plus, sans doute la plus extraordinaire de l'histoire de la navigation, disons, de plaisance, pour ceux qui vont sur l'eau pour le plaisir. On rappelle l'histoire, ouais. D'autant plus que c'est le cinquantenaire. Hein. Ouais. C'est en 68, donc Golden Globe, le journal anglais Sunday Times, organise un défi. Entre le 1er juin et le 1er octobre, vous partez d'un port situé au nord de 40 degrés de latitude nord, vous faites le tour du monde et vous revenez. Le premier qui est rentré reçoit un globe en or et une somme en livres sterling qui était assez colossale à l'époque. Plusieurs concurrents partent, il arrive une histoire épouvantable, un fait semblant de faire la course, Donald Crowhurst, et se suicide. Mais parmi eux, il y a Moitessier, qui est un grand navigateur déjà, qui a un bateau très évolué. Il fait son tour du monde. Et il arrive donc, après avoir fait le grand tour par les trois caps, il arrive de nouveau en Atlantique après avoir passé le Horn.
Il est en tête à ce moment-là.
Il est largement en tête. Ouais. Et donc, il n'a plus qu'à remonter l'Atlantique Nord en balade
pour aller en Angleterre. Pour remporter le globe d'or.
Récupérer son globe d'or et puis un gros chèque. Et là, il s'est dit non, ma vie, c'est pas ça, je reste en mer. Et il continue donc, bonne espérance, Lewin, Pacifique de nouveau, et Tahiti, ouais. Où il finira sa vie. C'est grandiose.
Je vous propose d'écouter la voix de Bernard Moitessier, le seul sur son bateau qui semble goûter un bonheur inégalable.
C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix, où je pourrais écrire tranquille, pas être emmerdé par tous ces macros de journalistes. Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée, c'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et demi que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien, tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que... Oh, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça, je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je ne peux pas rentrer en France. Vraiment, je ne peux pas.
Bernard Moitessier sur son bateau, renonçant aux honneurs de la victoire et renonçant à rentrer parce que c'est trop beau ce qu'il vit. Il fait aussi partie de vos inspirateurs, Bernard Moitessier et Dominique Lebrun.
Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle la génération Moitessier, c'est-à-dire ceux qui ont appris à naviguer dans les années 60 à 70, qui ont vu ce personnage, alors avec ses livres précédents d'ailleurs, nous montrer qu'il y avait autre chose dans la vie que devenir un cadre sup ou faire du commerce et ce genre de choses. Les temps étaient plus faciles qu'aujourd'hui, c'est vrai. On pouvait se permettre ce genre de choses. Et donc, on avait tous en tête l'idée de partir à la voile autour du monde, ce que je n'ai pas fait en ce qui me concerne. En revanche, j'ai accompagné au moins 2 bateaux pour passer la pointe de Bretagne de gens qui partaient affronter le grand large, qui ont découvert à l'occasion que c'était pas si simple que ça d'ailleurs. Mais on avait tous cette idée de pouvoir naviguer. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait des études très sérieuses que j'ai menées jusqu'au bout sur les conseils d'un excellent ami qui lui-même était navigateur et qui m'a dit: tu passes ta licence, tu passes ta maîtrise de droit, après tu seras un homme libre, tu pourras naviguer tout ce que tu veux. Et effectivement, après, je suis devenu
convoyeur de bateaux. C'est-à-dire qu'à cette époque, les bateaux qui faisaient, je crois, jusqu'à 12 mètres. on les transportait, c'est-à-dire qu'il y avait des navigateurs à bord pour les amener.
Complètement. Le transport par route n'existait pratiquement pas. Donc pour les salons nautiques, par exemple, on transportait les bateaux. Ça, j'en ai livré plusieurs à Hambourg, Southampton et ce genre de choses. Et donc j'ai par exemple un printemps livré 3 ou 4 bateaux en Grèce depuis la Grande Motte en faisant des allers-retours.
Alors dans votre livre, c'est pas la mer à boire, aux éditions du Trésor, vous avez aussi l'honnêteté de raconter quand l'émotion escomptée n'est pas au rendez-vous. Vous racontez par exemple la première fois que vous vous êtes ouvert à l'horizon à 360 degrés, que vous êtes offert un tour d'horizon, comme on dit dans la marine, elle vient de là, hein, cette expression, et visiblement ça a pas eu un grand effet sur vous, alors que des marins racontent ça, hein, ce tour d'horizon comme une révélation.
Justement, je ne sais pas. Alors, j'ai très honte en fait, et quand j'ai hésité longtemps à écrire cette chose qui est absolument vraie, mais lorsque j'ai pris conscience que donc on était au large, qu'il n'y avait plus rien autour de nous, pas un autre bateau, pas un oiseau, rien,
pas une terre en vue,
je me suis senti, je suis vraiment désolé, hein, au centre d'une cloche à fromage. Mais je voyais très physiquement la demi-sphère au-dessus de ma tête, éventuellement même avec la poignée au-dessus. Mais en fait, ce qui m'a quand même frappé après coup, parce que j'ai quand même réfléchi, avoir cette sensation-là quand même, c'est pas commun, s'y attend pas. Oui. Je me suis rendu compte quand même que ce qui était frappant, c'était qu'à bord, on était 4. Et comme il n'y avait strictement rien autour de nous, j'avais la sensation que l'humanité s'était réduite à notre petit bateau à nous 4. On était tout seuls au monde.
Sous cette cloche à fromage. Allez, on met les voiles avec l'écrivain de marine Dominique Lebrun. Nous braverons les tempêtes, chanterons des chants de marins et monterons au sommet des grands phares. Laissez-vous prendre par la mer comme d'autres se sont laissés prendre avant vous. Tintintin.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tintintin. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Mais Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. La mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Et dès que le vent soufflera, c'était Renaud dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
La barre au vent! Par le vent arrière! Ça n'est bon!
Commandant, est-ce qu'il faut que je diminue la toile là-haut ?
Non ! Nous courons grand large, c'est ce qu'il nous faut ! Bras de verre, mouvement ! Brassez carré ! Brassez carré !
Extrait de Moby Dick, le film de 1956, avec cette ambiance de tempête et de mer déchaînée. Dominique Lebrun, auteur de C'est pas la mer à boire aux éditions du Trésor. Vous en avez vécu des tempêtes d'anthologie comme celle-ci?
Une vraie, une seule.
À quelle occasion?
Je peux dire que c'est une tempête parce que ça fait 12 morts. Ouais. En d'un week-end. C'était à Pâques en 78, si je ne me trompe pas, ou 77. Je faisais un convoyage, je prenais un bateau de 8,50 m à Palma de Majorque, un bateau très abîmé, pour le ramener à Port-Vendres. Et à Port-Vendres, j'étais supposé le mettre au sec, prendre le bateau neuf, pour le ramener à la place. Alors, le bateau était non seulement abîmé, mais le moteur était définitivement mort. Les réserves d'eau, il n'y en avait pas, le gaz ne fonctionnait plus, et le radeau de survie était pratiquement entre ouvert. Donc, mais en principe, on n'a pas besoin d'un radeau de survie. Mmh. Donc, j'étais avec un équipier, nous étions deux, il n'y a pas de pilote automatique, et mon Dieu, on est rentré sur la France très 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 bien, navigant le long des côtes pour profiter des brises thermiques, très très professionnelles. Et puis, on passe le Cap Creus, qui est donc une espèce de petit Cap Horn méditerranéen qui est sur la Costa Brava, qui nous menait à quelques heures de Port-Vendres. Et là, comme dans un de mes livres d'initiation à la voile, le vent forcit, et puis on réduit la toile de façon très progressive. Donc, grand voile génois, phoque 1, phoque 2, un riz, deux riz tourmentin, tout petit phoque. Et pour terminer, plus que le tout petit phoque, et on arrive devant Port-Vendres. Et là, je me dis, si je rate l'entrée, c'est la falaise, on est mort. Donc, je ne rentre pas tout de suite, j'attends que le vent se calme. Dicton marin ne reparlera, Mistral qui lève de nuit ne dure qu'aujourd'hui. Je m'attendais au calme quelque temps plus tard. 7 jours plus tard, nous y étions encore, après avoir chaviré 3 fois, été assis 2 fois sur le plafond du bateau, ce qui est très désagréable. Ouais. À chaque fois, le bateau s'est remis à l'endroit tout seul, mais qu'importe.
C'est ça, c'est-à-dire que quand on chavire, c'est pas foutu. Parfois, une vague, ce qu'elle a fait, elle peut le défaire en remettant
le... Le lest du bateau est là pour ça. Ouais. Et comme les vagues sont très très creuses, arrive un moment où en fait, on est à l'envers, mais on n'est plus à la verticale, à l'envers, et donc on se redresse. Le mât tient ou ne tient pas, la cabine s'ouvre ou ne s'ouvre pas, là tout a tenu, merci pour le constructeur. Et donc on s'est retrouvé enfin en dehors de la tempête, le calme est arrivé, il a fallu ensuite rentrer à Minorque. L'opération totale a duré 13 jours, donc 13 jours de mer sans rien manger de chaud. On n'avait plus rien à manger sauf une demi-biscotte chacun et une demi-sardine pour les 2 jours qui nous restaient. Et puis on est rentré comme ça.
Quand on vit quelque chose comme ça, on se dit je remonterai peut-être plus sur un bateau ou voilà, c'est la règle du jeu et il n'y a pas de quoi se décourager ou être traumatisé.
J'avais 23 ans. À cet âge-là, on est immortel. La question ne se pose pas.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu quand même comme leçon de cette première grosse tempête?
C'était ce à quoi je voulais arriver en vous racontant mes souvenirs de vieux navigateur. c'était que j'en ai rien gardé. C'est-à-dire que si ça recommence demain, je ne saurais pas plus que là quoi faire. Là, manifestement, j'ai su par mes réflexes, mes lectures d'avant, mon expérience acquise avec les autres, faire ce qu'il fallait faire puisqu'on en est rentré, le bateau avec. Mais si ça recommence demain, je ferai peut-être une énorme bêtise. Ouais. Donc, je sais que je ne sais pas.
C'est ça. C'est-à-dire, on peut être le plus expérimenté possible, avoir été formé face à la mer. Parfois, on est impuissant.
Il y a un moment, c'est exactement ça, il y a un moment où tout ce que vous savez, ou pire, que vous croyez savoir, n'est plus vrai. Et ce moment, il arrive sans que vous le sachiez. Et faut avoir l'humilité de savoir un moment que c'est plus que ça pourrait être. Mais de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. On fonctionne au réflexe, on fonctionne à l'instinct, qui n'est guère qu'en fait tout ce qu'on a pu intégrer dans sa mémoire et dans sa compétence. Et puis on s'en sort ou bien on s'en sort pas.
Oui. Alors, de façon moins extrême que les tempêtes, de toute façon, la mer a des règles auxquelles on ne peut se soustraire. À commencer par les marées. Hein. Vous nous en disiez quelques mots en début d'émission. Pour vous, c'est la respiration des océans, hein, ces marées. Et effectivement, il y a même certains ports, selon la marée, on ne part pas ou on ne rentre pas. Donc, elle impose sa loi aux marins.
Alors, ça, c'est la chose qui est peut-être la plus belle leçon de vie. C'est qu'on a cette loi imposée qui fonctionne, je ne vais pas dire à la minute près, mais pour ainsi dire. La marée n'attend jamais personne. La marée ne se trompe jamais d'heure, ou presque. Ça veut dire qu'on apprend à vivre avec, à naviguer avec. On apprend, par exemple, à changer son agenda. Si on veut naviguer pendant une semaine de vacances sur un petit port breton qui échoue à marée basse, c'est la marée qui décidera à quelle heure on ira naviguer. Ce sera 3h du matin, et bien ce sera 3h du matin, on partira à 3h. Ou bien on déplacera le bateau pour le mettre à un endroit, il flottera, etc. Et là, on entre du coup dans une connivence profonde avec la nature qui fait que la mer prend une dimension largement supérieure. C'est pour ça qu'en Méditerranée, elle me manque autant.
Oui. C'est-à-dire que voilà, elle décide. Quand on est en Bretagne, la mer décide.
Oui, et vous savez comme moi qu'on n'est jamais aussi libre que sous la contrainte.
Et ça fait réfléchir, hein,
tout à fait.
De faire de la voix. Dans la chanson, Renaud, hein, dans sa chanson, il chante « J'ai eu si mal au cœur sur la mer, en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi ». Alors vous en parlez de ce mal de mer, il n'y a pas à avoir honte quand on a le mal de mer, c'est pas un truc de débutant, on est tous, ou presque, conditionnés pour l'avoir ce mal de mer quand on va sur un bateau.
Ceux qui n'ont pas eu le mal de mer, en général, n'ont pas eu l'occasion de l'avoir. En ce qui me concerne, je suis stupéfait du nombre de gens qui, pour la première fois de leur vie, ont eu le mal de mer avec moi.
Ouais.
Moi, en ce qui me concerne, oui, j'ai le mal de mer, beaucoup le mal de mer, ouais. Même je fais avec. Ouais. C'est une chose naturelle, c'est un problème d'oreille interne. On a ou on n'a pas. Ceux qui ne l'ont pas ont en général des problèmes d'équilibre ou d'audition. Donc, à tout prendre, voilà. Autant être malade. Faut savoir que les pêcheurs sont malades. Les équipages et remorqueurs de sauvetage sont malades. Ouais. Les coureurs au large. Ouais. J'en ai parlé avec Armel Lecléache, dont j'ai été le nègre pour un récit. Lui aussi a le mal de mer pendant quelques jours quand il embarque.
Ouais. Armel Lecléache, François Gabart, tous ces grands noms de la voile ont le mal de mer.
Éric Tabarly l'avait. Et aucun de ces gens n'a honte d'en parler, de
ouais.
toute façon.
Ouais. Bon, bah, voilà. Ça rassure tout le monde. On peut être un grand marin et avoir le mal de mer. Est-ce qu'il existe des remèdes efficaces pour lutter contre le mal de mer?
Les Anglais en ont trouvé un qui est absolument extraordinaire et qui marche à 100% alors que les autres ne marchent pas à plus de 90-95%.
C'est un remède anglais, attention.
C'est un remède anglais. Cela consiste, je vous le fais en français, c'est mieux, cela consiste à allonger le malade sous un pommier.
Voilà, bon ben ça amusera peut-être les gens malades, mais je ne sais pas si ça les soignera. Sinon, il y a aussi, vous parlez d'une pastille,
oui.
qu'on peut coller derrière l'oreille.
Oui,
alors, c'est plus sérieux.
Enfin, c'est ce qu'on appelle le scopoderme, c'est la scopolamine. Alors là, c'est un vrai médicament. En fait, ça, on la colle derrière l'oreille parce qu'à travers la peau, ça touche et ça annihile les mauvais réflexes de l'oreille interne et qui du coup ne déclenche plus de mauvais réflexes du côté d'un nerf de l'estomac qui est juste à côté. C'est très efficace. Mais ça a des effets secondaires. Alors, moi, je l'ai utilisé une fois pour un reportage qui allait être en mer très agité où j'avais pas les moyens d'avoir le mal de mer. Et je n'ai pas eu le mal de mer, en sachant que j'aurais dû l'avoir, donc ce qui est très jouissif. Mais j'avais des réflexes étranges. Je me grattais comme un chat derrière l'oreille. Mais c'était pas celle où il y avait le patch, c'était l'autre.
Ah, oui.
Et surtout, je voyais le bateau deux fois plus large qu'il n'était. Et c'est une fois à terre, une fois que j'ai enlevé ce machin, que j'ai vu la vraiment dimension du bateau. Là, j'y ai pas cru. Effectivement, je le trouvais un peu étrange, mon bateau, mais mon Dieu, ça le faisait.
Bon, on a que moyennement envie d'essayer votre patch. Hein,
je crois d'ailleurs qu'on ne l'a que sur ordonnance avec une liste comme ça d'effets secondaires. D'accord. Donc, méfiance.
Pour se donner du courage en mer, quand on est malade ou pas, il y a aussi les chansons. Vous aimez les chants de marins. Et comme on aime faire plaisir à nos invités, Anne-Sophie Ladonne vous a concocté un petit medley. J'espère qu'il sera à votre goût.
Nous étions deux, nous étions trois.
Nous étions deux, nous étions trois.
Nous étions trois marins de croix.
Contre l'Érythra, l'on l'a. Contre l'Érythra, l'on lire.
C'est Jean-François de Nantes.
Oui, oui, oui.
Gabier de la Fringante pour mes bouées.
Jean-François.
C'est en passant sur le pont Morlaix, c'est en passant sur le pont Morlaix.
All away, all fellow away,
la belle Hélène j'ai rencontré.
All away, all fellow away,
le 31 du mois d'août, nos aperçus sous le vent à nous.
Le 31 du mois d'août, nous aperçus sous le vent à nous.
Une frégate d'Angleterre qui fondait la mer et les flots.
C'était pour aller à Bordeaux.
Partir les capis au cadeau.
Goodbye, farewell, goodbye, farewell.
Adieu la terre, adieu Bordeaux.
Hora au Mexico.
Et ça commence à chanter autour de la table, Dominique. Alors, on a entendu les marins de Groix, on a entendu Jean-François de Nantes, c'était Éric Tabarly qui chantait Jean-François de Nantes, on a entendu sur le pont de Morlaix, on a entendu le 31 du mois d'août, et nous irons à Valparaiso. Alors, pourquoi ils chantent autant, les marins ?
Il faut savoir que la chanson de mer est un outil. Elle sert à rythmer les manœuvres et il existe différentes familles de chansons de marins en fonction de l'effort qu'il y avait à faire. Il y a les chansons à hisser, il y a les chansons à aborder, il y a les façons à aller, etc. Et puis on a les chansons qui, elles, sont d'ordre sociologique. Le pont de Morlaix, par exemple, c'est une chanson à aller, donc c'est un effort lent, mais c'est toujours des choses tristes qu'on raconte, effectivement, le matelot qui rencontre la fille de l'armateur et qui la regarde avec des yeux énamourés, mais c'est pas pour lui. Puis Jean-François de Nantes, c'est tout l'inverse, c'est « Je vais au port, je vais au bordel et puis je récupère une chaude pisse, quoi. C'est terrible la vie quand même.
Oui, c'est terrible. On se donne du courage avec ce genre d'histoire.
Voilà.
À bord des bateaux.
C'est malin.
Ouais. Allez, on retourne à terre dans un instant. Vous avez écrit de très belles pages sur les phares, Dominique Lebrun. Nous voudrions donc profiter de vos lumières sur ces constructions qui guident les bateaux. Le temps d'un bivouac entre terre et mer sur France Inter.
Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally Bell, the future, before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't. Down the line.
C'était Jackie Down the Line de Fontaine D.C. sur France Inter.
Kérion du parc.
Le parc de Kérion, salut Jean-Yves, salut à tous. Alors ici, nord-ouest 3, mer peu agitée, ciel peu nuageux, 762, bonne soirée.
Ouais, bonsoir Brian, nord-ouest 3, peu agité, peu nuageux, une pression de 760. Bonne soirée, à plus tard. Le grillage du parc.
Échange radio au phare de Kéréon, à la pointe de la Bretagne, entre Molène et Ouessant. Vous aimez la mer, Dominique Lebrun, vous êtes l'auteur de « C'est pas la mer à boire » aux éditions du Trésor, mais vous aimez aussi ce qui l'entoure et les phares. Et alors c'est très joli ce que vous écrivez sur les phares, vous nous faites rentrer dans cet univers. Il y a trois types de phares, expliquez-nous ça.
Il y a l'enfer, il y a le purgatoire, il y a le paradis. Alors l'enfer, ce sont ces phares qui étaient dressés en mer, qui sont toujours d'ailleurs, il n'y a plus de gardien, qui sont dressés en mer, on est enfermé dans la tour, il n'y a même pas un bout de rocher autour, on ne peut pas en sortir, c'est l'enfer. Purgatoire, c'est quand c'est une petite île, voire un gros caillou, sur lequel on peut sortir, faire quelques pas quand même, ou faire 10 fois le tour de tour pour la tour pour se dégourdir les jambes.
Avoir son petit jardin quand on est gardien de phare.
Ah non, ça c'est le paradis.
Ça c'est le paradis.
Ça c'est le paradis, c'est quand l'île, où c'est assez grand parce qu'on est sur la terre, où on peut avoir sa petite pelouse, son mouton, son pied de vigne si on est dans le sud, etc. Et donc cette poésie, qui est un peu construite d'ailleurs après coup, met quand même en évidence le métier de gardien de phare quand il existait, qui est une chose absolument fantastique.
Alors vous racontez aussi l'histoire du phare hanté de Thévenec. Alors ce phare, il était où ? C'était un phare purgatoire, enfer ou paradis celui-ci ?
Alors Thévenec se présentait comme un purgatoire pas très très loin du paradis, puisque c'est pas une tour, c'est une maison qui est sur un îlot qui est situé dans le nord du Radessin. Seulement dès le chantier, il s'est avéré que cet endroit était étrange. On entendait des bruits. Une nuit, il y avait une fosse dans laquelle il y avait de l'eau avec un couvert, le couvert qui a sauté tout seul, on n'a jamais compris. On a construit le phare, on y a mis les gardiens, et là c'était terrible, on a eu des accidents épouvantables, le gardien qui tombe sur son couteau et qui se tue, la maladie, on a tout essayé, et puis surtout il y avait une voix qui disait, et en breton en plus, tu es chez moi, fous le camp, donc les gardiens devenaient dingues, et ce qui s'est passé finalement, c'est que l'administration des phares et balises a officiellement reconnu que ce phare était hanté, et l'a laissé allumer en permanence. Non, on a trouvé la solution depuis, semble-t-il. La roche sur laquelle il est construit, il y avait une espèce de faille, et c'était lorsque les vagues arrivaient dans cette faille, elles poussaient l'air comprimé qui s'évadait en faisant des espèces de phrases ou de murmures que les gardiens, un peu fragilisés par l'ambiance et parce qu'on leur avait dit, traduisaient par cette phrase « Fous le camp, tu es chez moi ».
Ah ouais. Alors vous avez eu une expérience aussi incroyable sur un phare, le phare de la Jument.
Ça, c'est la plus belle histoire peut-être de ma vie de journaliste.
On va en profiter de la plus belle histoire.
On essaie d'obtenir des choses qu'on n'arrivera jamais à obtenir et une chose qu'on pensait impossible, on vous la propose. En l'occurrence, il s'agit du ballon. Ceux qui ont vu le film L'Équipier se souviennent de Torton, donc de le rôle du gardien de phare, qu'on met à cheval sur une espèce de grosse boule entre la vedette et le haut du phare et que l'on fait monter. C'est ce qu'on appelle le ballon. Alors, l'idée est la suivante, un phare en pleine mer, on ne peut pas l'accoster à cause des vagues, donc on lance un cordage qui va faire téléphérique entre le phare et le bateau, le pilote du bateau se débrouille pour rester faisant marche avant, marche arrière à la même distance, et on expédie la personne à cheval sur un gros ballon tenu par un cordage jusqu'en haut et ensuite à la descente. Alors comme il faut agir très très vite, il n'est pas question de s'attacher, donc c'est épouvantablement dangereux.
Et oui. Ben une sorte de téléphérique, mais aucun harnais de sécurité, on n'est pas accroché au ballon.
Surtout pas. Donc,
et ça, c'est votre meilleur souvenir alors.
Mais oui, parce que c'est d'abord une expérience humaine, le ballon quand même, c'est toute l'histoire des phares, c'est le ballon. Et ensuite, bon, comme je suis grimpeur, donc ça m'amusait aussi. Alors l'histoire est que sur le bateau, on enfourche le machin, à peine dessus, on est emporté vers le phare par le treuil électrique, et on se retrouve tout d'un coup au-dessus de la plateforme, on saute, on est à terre, c'est merveilleux. Le retour, c'est autre chose. Parce que même la jument, c'est pas très très haut, ça fait à peu près 15 mètres, je pense. Et bien, vu de 15 mètres de haut, le bateau, l'avant, il est tout petit, tout petit, tout petit. Et on a beau se dire, tu peux pas le rater puisque le cordage, il arrive sur le bateau. Ouais. Mais on y a à peine pensé que ça descend à fond la caisse. Et arrivé sur, au niveau du pont, avant qu'on ait eu le temps de sauter du ballon, il y a trois costauds qui vous ont pris par les épaules, qui vous ont jeté à plat pont comme des flics dans une manifestation, si j'ose dire. Et on est sauvés. Ouais. Et donc, je peux raconter, j'ai fait le ballon.
Ouais. Vous l'avez fait qu'une fois, j'imagine. C'est le genre de truc qu'on fait une fois, puis après on recommence pas.
Ah, si on me le proposait, je recommence n'importe quand. Ah oui, alors lui, c'est que l'ingénieur des phares et balises responsable de Brest, quand il a su ça, quand elle a su ça, pardon, elle n'était pas contente. Parce qu'effectivement, c'est un coup quand même à se faire très mal.
Allez, il est temps de rentrer au port, mais pour de nouveaux départs, bien sûr. Nous sommes au port de Saint-Malo, que vous affectionnez tout particulièrement, mais petit voyage dans le temps également. Nous sommes en 1948.
Saint-Malo a revu pour la première fois depuis la guerre la légendaire procession des Terre-Neuvains jusqu'au port où les derniers voiliers attendent l'heure du départ. Le cardinal Roche, archevêque de Rennes, a, selon l'usage immémorial de la grande pêche, béni les équipages et les bâtiments. Demain, ils partiront pour 6 mois de saison mauritière. 6 durs mois de brume et de peine, 6 mois de terre-neuve.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'intemporel dans ces ports? Là, on était dans une archive de l'ORTF hein, de 1948, mais on a l'impression qu'il y a toujours cette envie de départ quand on est sur un port. Ça vous fait cet effet-là aussi, à vous, Dominique Lebrun?
Dans tout vrai port, oui. Oui, et Saint-Malo plus que tous les autres.
Ouais, c'est votre préféré, Saint-Malo. Pourquoi?
Est-ce que j'oserais dire que ma femme est malouine? Bon, peut-être que je vais te la chercher là-bas, on ne sait jamais. Non, c'est un port où, d'abord, il y a la beauté. Techniquement, c'est un port très difficile d'accès à cause des rochers et des courants. Et puis, à chaque coin de rue, à chaque caillou, il y a une histoire. Quand on est à Saint-Malo, on vit dans l'histoire complètement. Et ça, c'est absolument irremplaçable.
Puis le port de Brest, c'est aussi celui qui vous a donné envie de partir.
Ah bah Brest possède dans le port de commerce de Brest le bassin dit le bassin de la douane avec le quai Malbert et le quai de la douane où on a donc les phares et balises, on a le remorqueur de sauvetage, on a la goélette recouvrance et puis toute une ribambelle de café assez à l'ancienne. En face l'embarquement pour Ouessan, on est dans un petit théâtre maritime, l'équivalent celtique du vieux port de Marseille. Mais là, on n'est pas dans le pittoresque, on est dans la passion maritime. Ouais.
On termine avec un dicton marin, on n'en a pas donné un seul. Est-ce que vous nous en donneriez un pour la route de ces dictons?
Je vous ferai volontiers, par exemple, puisque les dictons concernent souvent la météo, ouais. Je vous dirai tout simplement, qui veut mentir souvent n'a qu'à prédire le temps.
D'accord. Et on en conclut quoi alors de ce dicton?
On en conclut qu'il est extrêmement difficile de prédire le temps. Mais en revanche, il existe des tas de dictons pour prédire le temps. On n'aura pas beaucoup de temps à parler. Juste un petit au passage, je vous dirais « Ciel pommelé, femme fardée, ne sont pas de longue durée ».
Très bien. C'est un peu énigmatique hein, quand même vos dictons.
Je peux vous l'expliquer, mais on n'a plus le temps, il paraît.
Ouais, voilà. Faudra lire votre livre.
Absolument.
C'est pas la mer à boire aux éditions du Trésor, Dominique Lebrun. Et je signale aussi la parution de votre tout dernier ouvrage, Surcouf, le tigre des mers, aux éditions Talendier. Un grand merci à vous, Dominique Lebrun. Restez avec nous dans un instant. Coquelicot, faisan, châtaignier, mais aussi frelon asiatique. Si toutes ces espèces n'occupent pas la même place dans notre cœur, elles ont tout en commun d'avoir fait un long voyage avant de s'installer chez nous. Dans la dernière partie de l'émission, nous allons nous intéresser à ces animaux et à ces plantes venues d'ailleurs avec le passionné de nature François Lasserre.
Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux, aux oiseaux. Je n'en ai plus la moindre idée. Comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café? Quel drôle de jour, quel drôle d'idée de m'emmener chez toi danser. Quand ton cœur s'est accéléré, j'ai tout fait pour te résister, pour te résister, pour te résister, pour te résister. Dis-toi, nous c'est un grand geste croisé. Je suis bien trop sentimentale pour ce grand frisson plein été. Je suis bien trop sentimentale pour avoir déjà oublié. Pour te résister.
C'était Alexia Grédy qui chantait Drôle d'idée. Merci à Valentine Chédebois qui signe notre programmation musicale.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Bonjour François Lasserre.
Bonjour Daniel.
Entomologiste, fervent défenseur de la nature, vous venez de publier Beau d'ailleurs, ces espèces exotiques qui nous entourent, aux éditions Belin. Alors avec ce livre, vous nous invitez à nous questionner sur le regard que nous portons sur les espèces animales et végétales qui nous entourent. Alors il y a celles que nous considérons comme chez elles, faisant partie de la biodiversité locale, et puis celles que nous considérons comme exotiques et invasives. Or parmi les espèces que nous considérons comme chez elles, il y a beaucoup d'espèces anciennement exotiques. Et c'est toute l'originalité de votre ouvrage, c'est de mettre côte à côte des espèces que nous aimons parce qu'elles nous environnent depuis suffisamment longtemps pour que nous les ayons adoptées, et des espèces que nous aimons un peu moins, comme les frelons asiatiques par exemple. On peut prendre un exemple d'espèce venue de loin et que l'on a complètement adoptée, c'est le chat, François Lasserre.
Alors complètement. Alors lui, c'est vraiment une volonté de notre part, c'est vraiment de la domestication. Mais les chats, leurs ancêtres, donc tous les chats qui sont sur nos genoux, leurs ancêtres venaient des déserts et des savanes d'Afrique et d'Arabie. Donc ce sont des espèces exotiques qui n'étaient pas originaires d'Europe, puisque c'est ça la définition. Être exotique, c'est quand l'aire de répartition n'est pas celle qui nous environne.
Alors les migrations d'espèces dues aux humains concernent aussi la faune sauvage, le lapin de Garenne par exemple. Alors vous le dites dans votre ouvrage, l'une des plus grandes migrations d'animaux sauvages dues aux humains, en parlant du lapin de Garenne.
Exactement, on en a implanté absolument partout dans le monde et ils se sont très bien adaptés un peu partout. Alors il n'est pas à proprement parler exotique parce qu'il est un peu originaire d'Europe.
Ouais.
Il est originaire de la péninsule ibérique. Mais c'est nous qui l'avons introduit en France et dans le nord de l'Europe. Et donc, d'une certaine façon, il vient d'ailleurs. Mmh. Il y a plein de bêtes comme ça qu'on a installées. Et quand c'est nous qui avons décidé de l'implanter, ben ça passe toujours un peu mieux que quand ils viennent spontanément ou sans qu'on l'ait voulu.
Oui, parce que des fois, on est responsable de l'implantation, mais on l'a pas fait exprès. Pour revenir au lapin de Garenne, en Australie, vous remontez toute l'histoire. Au départ, c'est 24 lapins qui sont apportés par des humains en Australie. Et à l'arrivée, aujourd'hui, on compte plusieurs centaines de millions de lapins. D'où l'expression se reproduire comme des lapins.
Comme des lapins. Alors, ces chiffres peuvent vraiment nous inquiéter. En revanche, quand on les voit comme ça, bon, au départ, c'était quand même une volonté de notre part, mais les espèces qui arrivent d'ailleurs, il y en a très peu finalement qui s'implantent. Mmh. Il y en a vraiment très très peu, parce que tous les ans, avec le commerce international et le commerce qu'on fait depuis la nuit des temps entre êtres humains, on installe des bêtes qui viennent d'ailleurs, ou on en fait venir, mais il y en a très très peu qui s'installent, c'est toujours des anecdotes en fait, mais évidemment on a une propension forte à ne parler que des anecdotes.
Et dans la liste des espèces courantes chez nous aujourd'hui et qui ont voyagé, il y a aussi des végétaux. Vous parlez notamment du châtaignier qui vient pas très très loin, qui vient d'Europe. On se situe quand pour l'arrivée des châtaigniers en France ?
Alors, il y aurait eu des petites poches de châtaigniers qui seraient restées en France, c'est toujours à l'étude encore, ouais, après la glaciation, mais sinon ceux qu'on voit le plus en France seraient venus avec les Grecs et surtout les Romains. Et c'est vraiment un arbre que l'on plantait pour avoir les châtaignes qui servaient de farine. On appelait ça l'arbre à pain. Et moi qui me suis baladé des années dans les Cévennes en pensant que c'était un paysage absolument sauvage et vraiment
authentique
et tout, en fait, c'est planté par les humains.
C'est planté par les humains et ça viendrait donc de Grèce, hein, là.
De Grèce ou d'Italie plus particulièrement, par les Romains.
Et le coquelicot aussi symbole de nos campagnes, qu'on aime tant voir barioler les paysages. Nous y sommes très attachés et finalement, ils viennent aussi d'assez loin, ces coquelicots.
Alors, ils viennent de la partie orientale de la Méditerranée. Ce sont des plantes proches orientales, donc d'Asie, en quelque sorte, et qui sont venus, alors là, sans vraiment qu'on le veuille, c'est plutôt venu au moment où on a commencé l'agriculture, dans la terre ou dans tous ces végétaux que l'on transportait, il y avait des graines de coquelicots, parce qu'ils en font par millions, ouais. Et du coup, ça s'est implanté petit à petit, sans vraiment qu'on le veuille, même si quand même, dans leur pays d'origine, ils sont utilisés en pharmacopée, et notamment, on dit que ça peut apaiser, par exemple, pour le sommeil.
Et puis alors, j'ai appris du coup l'origine du mot coquelicot, du nom des coquelicots.
Quand vous regardez un coquelicot, c'est vrai qu'avec un peu d'imagination, pensez que ça ressemble à la crête d'un coq, et coquelicot, ce serait l'équivalent de l'onomatopée Du chant du coq.
Cocorico. Cocorico. Ça vient de Cocorico.
Ça vient de Cocorico.
Ça explique pourquoi on y est si attaché à ces petits coquelicots. Et puis on apprend aussi au détour de vos explications que nous les voyons rouges, mais que les insectes, eux, ne les voient pas du tout rouges. Ils les voient noirs, alors ces coquelicots.
Alors une partie des pollinisateurs ne voit pas le rouge, notamment les abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Et du coup, le rouge n'est pas repéré. Donc ils sont noirs. En revanche, les insectes voient quand même dans l'ultraviolet. Et il y a des reflets d'ultraviolet sur les pétales, donc ils arrivent quand même à situer le coquelicot et à pouvoir aller là où la fleur lui indique qu'il y a du nectar.
Et voilà comment l'entomologiste que vous êtes retombe sur ses pattes. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, on croise des insectes aimés et mal aimés. On parle des abeilles, mais on parle aussi, vous parlez, du frelon asiatique. Alors voilà un exemple d'espèce exotique, absolument mal aimée, catégorisée comme envahissante, invasive.
Tout à fait. Après nous, ça pourrait être l'espèce, c'est vraiment typique de l'espèce de la EEE, l'espèce exotique envahissante, c'est-à-dire elle arrive d'ailleurs. Elle se naturalise, c'est-à-dire qu'elle se reproduit très bien et elle étend son territoire de façon assez rapide. Et c'est vraiment le cas du frelon asiatique. Et ces imbéciles de frelons, si je puis me permettre, se sont attaqués au seul insecte qui a un syndicat, l'abeille domestique. Donc c'est une catastrophe pour lui. Il venait de Chine, il a passé la frontière sans papier. Et il porte un nom dont on a peur, les frelons. Alors d'une certaine façon, il a presque réhabilité le frelon d'Europe parce que lui, enfin, il est chez nous, et du coup on se rend bien compte que les frelons sont des insectes inoffensifs et craintifs, et du coup on s'en rend d'autant plus compte qu'il y aurait un autre, voilà, mais on n'y peut rien, ils sont installés, donc on va changer notre mode d'apiculture, bien sûr ça nous demande de changer, mais surtout on n'y peut rien, ils sont installés, ça y est, donc réjouissons-nous, nous avons désormais deux espèces de frelons, ouais, alors qu'on n'en avait qu'une.
Et c'est là que je pense vous ferez réagir des auditeurs, c'est que sur certaines espèces, on n'a pas envie de se réjouir. Alors c'est vrai que ces frelons asiatiques, s'ils s'étaient attaqués aux moustiques, on les verrait de façon beaucoup plus sympathique, mais il se trouve qu'ils s'en prennent aux abeilles, et on se dit, elles n'avaient pas besoin de ça pour aller mal, donc on aimerait se débarrasser du frelon asiatique, et là, vous prenez leur défense.
Exactement, parce que ce que je montre avec ce livre, c'est qu'on a chacun notre vision de ce que devrait être la nature ou de ce qu'on a envie qu'elle soit. Qu'on soit chasseur, protecteur de la nature, citoyen lambda sans aucune connaissance, on a une vision subjective du monde. Et donc, parfois, je rappelle que quand on est perruche à collier, c'est plutôt sympa d'être perruche à collier parce que c'est pour ça qu'elle s'implante aussi bien en Europe. Ce sont des espèces de perruches, comme un peu des perroquets verts qu'on voit dans beaucoup de villes, dans beaucoup de grandes villes maintenant. Et là, les gens, ils ont du mal à leur taper dessus ou à vouloir les tuer. Du coup, elles sont plutôt nourries. Et c'est en partie pour ça qu'elles s'installent aussi bien dans nos villes. Alors qu'en revanche, quand on s'appelle frelon et qu'on s'attaque à notre bien, le miel, alors là, c'est plus du tout la même histoire. Et du coup, je montre que c'est normal d'être subjectif, mais c'est bien de le savoir. Et donc, de dire « j'aime les insectes, mais l'abeille, oui, mais pas le frelon », c'est un peu une drôle de façon d'aimer les insectes. Ou « j'aime la nature, j'aime les oiseaux un peu rares et uniques en France, en revanche, la perruque et chacolier, je l'aime pas trop ». Ou « l'ibis sacré du Nil, j'ai plus envie de le voir dans mon coin ». C'est très subjectif et interrogeons-nous là-dessus.
Ouais, en tout cas, ça nous interroge sur notre rapport à la nature, aux autres espèces, sur notre façon de déterminer qui ont le droit de citer, qui n'a pas le droit d'être là, qui sont les bons, qui sont les méchants. Un grand merci à vous, François Lasserre. Je rappelle le titre de votre livre, « Beau d'ailleurs » aux éditions Belin, avec les très belles photos du photographe animalier Cyril Ruosseau. Un grand merci à vous.
Merci Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en passant par notre page sur franceinter.fr ou avec l'application Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.